curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Trois, en tout cas, fait que si vous avez, c'est sold out.
En dessous de minutes, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Leur service légendaire est couvert par les bonnes compagnies d'assurance. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Puis demain aussi, il va faire
beau. Ben, c'est ça.
La chronique de Bruno Gervais, présentée par Enviroconfort. Chez Enviroconfort, la glace, on l'aime sur la patinoire, pas dans les fenêtres. Pour être confortable pour écouter le hockey, ça vous prend la meilleure solution en climatisation, chauffage et thermopompe. Contactez Enviroconfort.
Dupont, le matin.
Alors, on va le rejoindre tout de suite et en plus, il est l'analyste des matchs de la Ligue américaine du Rocket de Montréal et c'est la folie, en tout cas à Laval, pour les matchs du Rocket. Bruno, bon matin.
Bon matin la gang.
Comment tu vas?
Moi, ça va très bien, vous autres?
Ah, en feu, quand on vient de vacances, on est toujours en feu. Hey, je voulais savoir, avez-vous gagné le tournoi de Québec que vous êtes venu avec ton équipe?
Oui, on a gagné le tournoi de Québec, ça a très bien été, en finale contre une équipe de Québec, justement. Fait que ça a été un beau week-end, quelques parents ont pu visiter, on restait sur la Grande Allée, fait que quelques parents ont pu revenir 10 ans en arrière là, dans leurs belles années et profiter de cette merveilleuse Grande Allée.
Fait qu'ils applaudissaient un peu moins le lendemain matin, mettons.
Ouais, mettons qu'ils applaudissaient un peu moins, il y avait des lunettes fumées en dedans, puis ils étaient sur Gatorade, fait que ça
ça donne une idée des soirées. Hey Bruno, c'est vrai, il y a comme une effervescence où il y a vraiment un boom pour le hockey du Rocket à Laval. Ça me semble pas être des partisans nécessairement du Canadien, mais vraiment des gens qui trippent sur leur équipe de la Ligue américaine.
Oui, puis c'est phénoménal l'atmosphère et depuis quelques matchs en série, tu vois les joueurs mentionner à chaque fois à quel point ça vient donner de l'énergie. C'est un amphithéâtre qui est spécial, qui a été conçu. Justement, j'étais avec M. Corbeil, le DG, là, et hier, qui parlait, c'est conçu pour les spectacles, c'est conçu pour l'expérience. Fait tout ce qui a été bâti, c'était pensé pour le son, puis à quel point ça allait bien voyager. Puis c'est un des endroits où il y a des compagnies partout à travers le monde qui viennent faire des tours là pour c'est leur pignon ici en Amérique du Nord pour démontrer ce qu'ils peuvent faire. Fait que c'est phénoménal comme expérience. Puis le Rocket en tire profit parce que l'ambiance qu'il y a là, c'est survolté. Le Rocket joue très, très bien. Après avoir battu là, sur la route là, dans un match ultime, le Crunch de Syracuse, l'équipe école du Lightning, bon ben ils mènent 2-0 contre l'équipe école des Sabres de Buffalo, là, les Americans de Rochester. Ils jouent du très, très gros hockey. Ça fait 3 matchs de suite là, que c'est à pleine capacité. Ils ont remis des t-shirts blancs, les serviettes, ils veulent faire le white out qui appelle là, tout est blanc. Puis en plus, l'équipe joue bien avec 2 victoires là, convaincantes, 6-1 et 3-1 pardon, à la maison. Fait que ça va très bien pour le Rocket.
Qu'est-ce que ça veut dire pour une équipe, parce que tu es passé par les mineurs quelques saisons, qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe de la Ligue nationale, que son équipe en bas ait du succès, même qu'il gagne la Coupe Calder? Est-ce que là, je me souviens pas trop avec le Canadien, mais je pense que quand Carey Price s'était joint en pleine saison avec l'équipe école des, je sais pas si c'était les Bulldogs à l'époque, puis il gagne la Coupe Calder, ensuite, quand ils sont montés dans la Ligue nationale, mais ils n'ont pas nécessairement gagné, mais Patrick Roy l'avait fait, lui, en passant également par la Ligue américaine. Est-ce que ça a un impact positif, automatique, quand ton équipe de la Ligue américaine va bien?
À mes yeux, oui. Puis c'est que tu as toutes sortes de compositions pour ces équipes-là dans la Ligue américaine. Puis quand tu regardes le Rocket, c'est une équipe avec beaucoup de vétérans. Puis c'est les vétérans qui ont bien du bagage, soit dans la Ligue américaine ou même dans la Ligue nationale, qui tirent présentement. Les Danick Martel et Alex Belzile, Xavier Ouellet joue très bien, Paquette. Il y en a plusieurs qui vont très bien. Mais comme expérience, tu veux que tes jeunes joueurs apprennent à gagner. Puis c'est pas quelque chose qui s'apprend en regardant des vidéos YouTube. C'est de quoi que tu dois vivre. Tu dois vivre cette expérience-là au niveau professionnel, puis de voir tout le monde s'en être engagé comme ça, puis avec une mission, puis trouver des façons de gagner. C'est le meilleur bagage. Et tu as mentionné les Bulldogs d'Hamilton qui l'avaient fait avec notre ami JP Côté qui était là, Jonathan Ferland qui était là jadis avec justement Carey Price. Mais c'est la même chose avec ce que le Lightning a vécu quelques années avant dans les mineurs. C'est à Norfolk, c'était leur club école. Et c'est là que les Tyler Johnson, les Palat, les Killorn, puis Célabri était là avec JP Côté aussi, mais qui ont gagné une Coupe Calder, qui ont appris à gagner au niveau professionnel. Puis comme bagage, c'est phénoménal. Puis quand tu regardes la situation du Rocket, ça a été une saison très en dents de scie pour Caden Primeau, qui est comme un de tes meilleurs espoirs, un espoir devant le filet. On parlait de lui pour venir en relève à Carey Price. Puis même là, depuis ses débuts professionnels, la constance n'était pas là. C'était des hauts, c'était des bas. Puis on l'a vu cette année avec le Canadien, c'était extrêmement difficile. Fait que là, les points d'intégration commencent à se présenter. Puis est-ce que ça va vraiment être lui le prochain? Est-ce que ça va être trop dur de passer à l'autre niveau? Assez que c'est pas lui qui a commencé le match numéro un. C'est Kevin Poulin contre Crunch de Syracuse, puis c'était au mérite. Kevin Poulin avait été phénoménal pendant la saison. C'est un vétéran aguerri qui commence, puis c'est lui qui donnait la meilleure chance de gagner. Mais après une défaite, c'est Kevin Primeau qui revient devant le filet, puis il l'a dit publiquement, ça l'a piqué au cœur. C'est ça que tu veux. Tu veux voir le côté compétiteur de ces gars-là. Ouais. Et depuis, Primeau est phénoménal. Là, pour son pourcentage d'efficacité, je pense qu'il est rendu à près de 950. Il est deuxième dans la Ligue américaine avec les gardiens encore en vie. Et c'est fou à quel point il a un impact positif. Puis c'est un autre gardien. Moi, c'est le meilleur hockey que je l'ai vu jouer depuis qu'il est à Laval. Fait que ça, pour une organisation, c'est ça que tu veux. Tu as des matchs super importants, puis tu as des jeunes joueurs comme Caden Primeau qui se lèvent, qui démontrent qu'ils peuvent gagner, puis se lever dans ces moments-là au lieu de s'écraser. Puis ça, pour une organisation, là, c'est de l'or.
Mais il y en a pas tant que ça, des jeunes qui se démarquent. Parce que là, tu l'as dit, les vétérans les font gagner. Les vétérans jouent un peu plus. Est-ce que tu sens d'autres joueurs qui se rapprochent? Hey, je regardais hier, dans le match d'hier, parce que je vous ai suivi, avec Rochester, là, Petrenko, là, je sais pas trop, le jeune joueur de 19 ans, là. Hey, est-tu bon, lui?
Il a lancé des lignes mineures, puis c'est un autre Allemand. Tu sais, quand Stodula, il était sorti, c'en était un autre des Allemands avec Reichel qui est avec Chicago. Peterka, c'est tous des Allemands qui ont été repêchés la même année. Il a un tir phénoménal, mais tu mentionnes lui. Il y a Peyton Krebs qui a été acquis dans la transaction avec Jack Eichel, qui est là, qui est un jeune joueur phénoménal, un choix de première ronde. Jack Quinn, qui est un choix huitième au total, première ronde aussi, qui est un jeune talent. Il y en a beaucoup avec l'organisation des Sabres. Eux autres, ça fait des années là qu'ils sont dans le cadre, puis qu'ils accumulent ces choix-là. Tu as plusieurs bons joueurs, mais c'est là que tu vois la différence. Puis en regardant le match d'hier, tu as vu la frustration de ces jeunes joueurs-là, parce que dans leur face, ils ont des gars expérimentés qui sont super bons à rentrer sous leur peau. Puis là, il y a beaucoup de frustration à Rochester. Mais quand tu regardes les jeunes du Rocket, puis un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, qui a eu une saison phénoménale, premier de l'équipe pour les points, premier de l'équipe pour les buts en désavantage numérique, deuxième pour les buts en avantage numérique, il était partout, il y a une saison phénoménale, malgré le fait qu'offensivement, là, c'est vraiment sur le tort que c'est venu. Puis, lui, en série, présentement, c'est juste 3 mentions d'aide, il n'a pas encore trouvé le fond du filet, mais il est tellement bien entouré, il continue à avoir son temps glace, puis c'est ça, c'est là que tu apprends, parce que tu passes à travers l'adversité, puis au lieu de voir l'équipe s'écrouler parce que tout repose sur tes épaules, tu peux regarder un gars comme Alex Belzile, qui a un point par match depuis le début des séries, qui a une saison avec beaucoup de blessures. Tu peux apprendre énormément d'un gars comme ça au quotidien, avec des matchs aussi intenses, aussi importants. Même chose pour Jesse Ullonen. Seulement 2 points depuis le début des séries. Il continue à avoir dans son temps glace, mais il va apprendre de ces gars-là. Puis là, de plus en plus, ces gars-là, ces jeunes-là, Harvey Pinard puis Ullonen, trouvent une façon d'avoir un impact dans un match. Sans nécessairement que c'est tout le temps sur la feuille de pointage, mais embarque en s'engage dans le concept d'équipe. On avait eu Lennon terminer ses mises en échec, bloquer des tirs. Tu sais, de comprendre que le jeu change quand t'es rendu en séries éliminatoires, puis faut que tu trouves une façon d'aider ton équipe. c'est pas juste en marquant des buts.
Exact. Et c'est ce que les Panthers n'ont pas trouvé face au Lightning. Hein. Ça a été, Mary nous le rappelait plus tôt dans les sports ce matin. Depuis 2013, l'équipe qui gagne le championnat de la saison régulière, le Lightning, ça leur était arrivé également avec une année record, d'ailleurs en points, si je me trompe pas, avait été éliminé dès le début des séries. Donc, ça veut rien dire. Et là, ils ont pas été capables de s'ajuster en aucun temps au Lightning dans cette série-là.
Non, puis ça s'est passé tellement vite. J'ai trouvé ça triste pour les gars comme Claude Giroux puis Joe Thornton. La moitié de la façon que ça se termine comme ça, je suis sorti, j'ai été porter mes poubelles sur le bord du chemin. Je suis revenu, la série était finie. Ça s'est passé tellement vite. Le Lightning s'est occupé des Panthers. Puis quand tu ramènes ça, ce concept-là, des équipes là, qui finissent au premier rang puis qui battent des records de points pendant la saison, puis là, tout d'un coup, s'écroule en série. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est que ces équipes-là n'ont pas frappé d'adversité. Puis dans une saison où tout va bien, puis tu trouves toutes sortes de façons de gagner, puis même à 80%, même quand tu joues un mauvais match, tu gagnes. Puis après ça, quand tu arrives en série, puis tout d'un coup, tu frappes de la vraie adversité, puis tu frappes une équipe qui s'est ajustée, puis qui vient jouer dans tes faiblesses, puis c'est là que tu n'es pas capable de réagir. Ça fait partie de ça. C'est pour ça que les équipes qui, plusieurs blessés, qui vivent des saisons difficiles, qui apprennent de ça, une fois rendus en série, on dirait que tout clique, puis là, ils peuvent passer à travers n'importe qui. C'est parce qu'ils ont été capables de réagir, de répondre à l'adversité, de tenir le bateau là, au-dessus de l'eau pendant la saison. Puis après ça, quand tu retrouves ton monde, tout d'un coup, tout explose. Ça fait partie un peu de ça, parce que les Panthers, cette année, ils ont battu des records, ils marquaient des buts, ça avait pas de bon sens, de toutes sortes de façons. Fait tu regardais des matchs des fois, puis tu voyais, ouais, tu sais, ça trichait un peu les coins, ça réussissait, même si ça donnait beaucoup d'occasions de marquer, bon, mais il gagnait le match, c'est ça, 5, c'est pas grave, il était capable d'en marquer 6. Mais là, tu t'es frappé un Vasilevski qui est au sommet de son art, puis tu sais, il y a une statistique qui est sortie, je sais pas si vous avez vu sur Vasilevski, dans 7 occasions qu'il y a, dans 7 matchs qu'il y a l'occasion d'éliminer l'équipe adverse, ben il a accordé un but sur 200 tirs. Fait que ça donne une idée de quand Vasilevski est en mode robot, ben il y a rien qui rentre.
Maintenant, je veux qu'on conclue ça avec la blessure qu'a subi Samuel Girard avec l'Avalanche. C'est terrible. Il a cassé en deux, c'est pas compliqué là. Oh. Est-ce que c'est un petit peu de sa faute? C'est pas de sa faute là, de se casser le plexus, tu vois. Mais est-ce que mettons, toi, t'es coach ou t'enseignes à des jeunes, tu dois un peu te protéger. C'est un jeu où il y a du contact physique. C'est-tu un peu de sa faute dans ce que t'as vu ou si c'est tout simplement une mise en échec d'un trop gros bonhomme sur un trop petit bonhomme?
Mais je vais reprendre. Tu sais, il y a un mélange des deux. Mais je vais reprendre une conversation que j'ai eue hier. Je sais pas si t'as vu le premier match du Rocket contre Rochester. C'était un match qui était complètement à l'avantage du Rocket. C'était 6-1. Puis dans les dernières secondes du match, il y a Ben Holmstrom de Rochester qui a été d'une mise en échec là, vicieuse là, directement. Il y a le coude à la tête de Norlander.
Ah oui, je l'ai vu ça.
Mais tu l'as vu, mais oui. Norlander, d'après moi, c'est la tête. Ça semblait être une commotion. Il sera pas là pour un bon petit bout. Puis Ben Holmstrom, ça a déjà été mon capitaine. Ça a été un coéquipier exemplaire, phénoménal. Je l'ai adoré. Mais quand j'ai vu ça, là, j'ai envoyé un message, puis je l'ai traité de quelques noms. C'est qu'est-ce qu'il faisait là? T'es en fin de match, chercher le trouble comme ça. C'était pas nécessairement son style, mais il voulait changer la série. Puis j'ai été le voir hier pendant le match, justement. Lui, il jouait pas. Puis on a discuté. Puis tu sais, il s'en voulait de ça. C'est pas l'intention qu'il avait. Mais il reste 5 secondes au match, puis t'as 2 joueurs qui cherchent à brasser un peu, puis s'en viennent sur toi. Protège-toi. Puis Norlander, il n'y a eu aucun moment qu'il s'est protégé ou qu'il a senti le besoin de se placer d'une position pour être prêt à accepter une mise en échec. Et c'est un peu, c'est le mélange des deux parce que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, même dans le match. Jack Quinn, qui est un jeune joueur de Rochester, et j'en parlais avec Ben Armstrong, venait de se faire frapper par Belpedio de Laval, mais il s'est laissé dans une position vulnérable. Puis il y a cette mentalité-là des joueurs, des fois, de dire « OK, moi, je suis pas dans une position que tu devrais me frapper, fait que je vais rester comme ça, puis si tu me frappes, tu vas avoir des conséquences. » Mais le gars qui reçoit la mise en échec, ouais, aussi. Puis j'ai eu souvent cette conversation-là avec Bill Guérin. Puis Bill Guérin, lui, est en train de devenir fou parce que la mentalité, à l'époque, c'était « T'as la rondelle, t'es la cible, tu te protèges, tu te places pour être prêt à recevoir la mise en échec. » Puis ça l'a un peu changé. Puis des fois, dans les jeunes, oui, on va empêcher les mises en échec par derrière, mais souvent, on est juste sur le fautif ou celui qui donne la mise en échec. Mais c'est vrai qu'il y a une éducation et un enseignement à faire à celui qui reçoit la mise en échec aussi. C'est ton devoir d'être placé d'une bonne position.
C'est qui le meilleur contre qui t'as joué pour éviter des mises en échec? Tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, Wayne Gretzky, il se faisait jamais frapper. Je sais pas parce qu'il était si vite que ça, mais en même temps, il était tout le temps, il était rarement dans des situations vulnérables. Il était toujours un peu à l'écart ou en arrière, je sais pas. Y a-tu des joueurs comme ça qui réussissaient à éviter le check solide parce que plus rapide ou plus, ils se protégeaient un peu mieux?
Ben j'en avais plusieurs, tu sais, puis ça c'était une chose que tu devais faire, tu sais, surtout quand je reviens en arrière là au début, c'est parce que dans chacune des formations, tu avais 3 4 5 gars qui étaient là parce qu'ils étaient excellents à finir des mises en échec, puis les autres voulaient pas la rondelle, puis ils étaient des requins sur la glace, puis ils cherchaient juste leur proie, fait que tu avais besoin, mais tu sais, pour revenir à un gars qui a passé à travers tout ça puis qui est encore là aujourd'hui, un Sidney Crosby était excellent pour ça parce que c'est une cible, il y a souvent la rondelle. Puis c'est, ça va arriver là que tu sais, on l'a vu, il s'est fait blesser, une mise en échec un peu là, scratcheuse là, par Trouba, mais c'est un gars qui était tout le temps prêt, qui était très vif à changer de direction, puis à anticiper les moments où il va être dans une position vulnérable pour se sortir de là rapidement. Fait que ça en était un. Puis Andrew McDonald, moi j'ai joué avec Andrew McDonald, puis il était tout mince, là, c'était un poteau. Le gars, il avait pas un once de muscle là-dessus au début quand il est arrivé. Puis je me disais, il va se faire casser en deux, mais il trouvait la façon, il sortait tout le temps d'une mise en échec à la dernière seconde, puis il était excellent pour esquiver. Fait que ça lui a permis de survivre là, dans tout ça.
Alors, on va suivre ça. Est-ce que tu vas sur la route à Rochester?
On va faire ça du studio. Okay. Tu sais, avec... C'est un peu différent, les arénas, surtout dans l'Est, là, dans la Ligue américaine, il n'y a pas beaucoup d'arénas de la qualité de Laval. Fait qu'on va faire ça du studio, mais on va suivre l'équipe là, jusqu'à la fin. Puis ils sont à une victoire de se retrouver dans le carré d'or de la Ligue américaine.
Hey, ça va être très intéressant. Faut que je te parle d'autre chose vite, là. Je sais que tu es très proche de Maxime Talbot. Tu parlais à Max, le congédiement. As-tu vu ça venir? Comment que ça s'est passé?
Ben oui, il a vu ça venir parce que aussitôt que le changement a été fait dans la direction, tu sais, des fois, là, t'es les entraîneurs, même dans la Ligue nationale, t'attends tout le temps un peu voir comment ça va se passer. Puis Pat Verbeek, tu sais, de moi, ce que j'entends partout à travers la Ligue nationale, puis plusieurs personnes ont travaillé avec lui, c'est un homme, il parle pas beaucoup, mais c'est un homme qui a été très apprécié, qui est proche de son monde, puis tu sais, c'était juste des commentaires positifs. Puis Max, c'est la façon qu'il l'a vécu. C'était très bizarre comme scénario, puis c'était même un peu awkward, là, qu'on va dire, là. Puis, dans le fond, lui, quand il est arrivé, il venait voir les matchs, il venait voir les matchs sur la route, il venait même pas parler au groupe d'entraîneurs, il les croisait des fois dans le corridor de loin, il venait même pas dire bonjour. Fait que tu le sentais que dans son devoir de directeur gérant, c'est qu'il allait avoir des changements. De ce que je me suis fait dire, c'est que c'était déjà planifié dans l'embauche de Verbeek. C'était déjà dans le plan. Lui, il amenait son monde là. Fait que ça fait partie du métier, ça fait partie de la réalité du monde du hockey. Souvent, c'est qui tu connais. Puis là, c'était la gang qui avait amené Joël Bouchard là. Il n'était plus là. Fait que là, Joël, lui, le pont se faisait couper. Par la bande, Max était dans cette même situation-là. Il a adoré l'expérience. Tu sais, il prend ça vraiment juste du côté positif. Il va peut-être faire une chose qu'il n'a pas faite quand il a pris sa première retraite, c'est de prendre un petit moment pour souffler puis vraiment se reposer. Fait que là, il va pouvoir en profiter. Il est encore là à San Diego pour un petit bout. Puis après ça, il va revenir là, quand le soleil va être bien implanté ici au Québec pour pouvoir se reposer puis raconter ses petites aventures de San Diego.
Bon, ben cool, Bruno. Merci beaucoup. Prends-toi une feuille là puis écris phénoménal dessus, OK? Parce que tu as battu un record ce matin. Phénoménal a été utilisé 24 fois.
Ben, c'est bon, mais moi, c'est le même que je suis payé par vous autres au nombre de phénoménales que je mentionne.
Okay. C'est ta plus grosse paye à vie. Salut, mon chum.
Salut.
Bye-bye. Notre ami Bruno Gervais, donc analyste des matchs de la Ligue américaine à RDS, c'est le Rocket qui est en séries éliminatoires.
Faut que toi, tu soulèves les béquilles de nos collaborateurs, c'est ça?
Oui, mais si j'en ai... Non, mais moi, ça, c'est pas une béquille. Ça, c'est une maladie.
Ah.
Tu sais, de tousser, de cracher, c'est ma maladie, ça.
C'est pas volontaire.
Fais pas rire de moi, là. C'est comme quelqu'un qui zozote, là, de même, là.
C'est ça.
Tu sais, quelqu'un qui a un cheveu sur le bout de la langue, là, qui parle. Donc, qui j'entends tout le temps, donc? J'ai un cheveu sur le bout de la langue.
On n'a pas le temps de parler de ça.
Ouais, oui, il me semble. C'est qui, donc?
Au nombre de fois, tu demandes qui?
Ouais, c'est des questions rhétoriques, là.
En tout cas, c'est pas Yvon Delisle que vous allez entendre dans quelques instants.
Parler.
Ouais.
Le pied dans ça.
Puis là, je me choque. Tu sais, je lisais dans un commentaire quelqu'un qui écrit, je les lis pas beaucoup, puis vous savez, ma philosophie. Tu sais, d'ailleurs, l'horloge est brisée, je t'ai entendu, Pierre, dans le 5 ans.
Hey, ça fait une semaine et demie
qu'il est brisée. Mais c'est une excellente nouvelle. Tu sais que moi, je l'enlèverais.
Ouais, je savais très bien que t'allais dire ça.
Parce que l'or, on l'a tout ailleurs. Fait que j'étais très content qu'elle soit brisée. L'autre affaire, les messages, c'est important qu'on interagisse avec l'auditoire, mais il y a des, tu sais, quelqu'un qui écrit, il dit, au risque de créer un incident dans le métro de Paris, quand il y a un incident, c'est un suicide. Ça devrait me choquer parce que, tu sais, quand j'ai dit ce matin que on était retardé parce qu'il y a eu un incident dans le métro, qui était un métro en panne, puis quand quelqu'un dit, ouais, putain, je me dis que j'aurais répliqué ça en disant, ouais, mais ils ont vraiment dit que le métro était en panne à la gare. Il n'y a pas de conducteur, le métro là-bas, non, tout okay, est automatique. Ça s'en va tout seul. Et c'était pas un suicide. Pourquoi je sais que c'était pas un suicide? Pas parce que je l'ai vu puis j'étais là. C'était à la gare avant où on était. C'est qu'il y a des barrières anti-suicide. Il y a des dans la plupart des stations au centre-ville de Paris, il y a des baies vitrées. Moi, je mesure 6 et 2. Oui. Des baies vitrées doivent avoir 6 pieds, à peu près. Peut-être un peu plus. Honnêtement, j'ai oublié de remarquer la hauteur. Donc, c'est complètement isolé. Et c'est des portes automatiques qui s'ouvrent après que les portes du métro se soient ouvertes. Fait que, puis c'est pas uniquement contre le suicide. Souvenez-vous à Montréal qu'il y avait une jeune femme qui textait puis qui était, au lieu de passer dans la porte du métro, elle est tombée entre les deux wagons. Mais elle était pas morte parce qu'ils ont empêché le métro de partir.
Sans compter l'espèce de vague de monde qui poussait le monde dans le métro.
Ouais.
Tu te souviens-tu de ça dans la dernière année, me semble?
Vague, on exagère.
Ben, t'as raison, c'est peut-être pas une vague, c'est une petite vaguelette.
Mais c'est ça, donc, ces vitres-là, ouais. C'est super bien fait, honnêtement. Et je pense qu'il n'y en avait pas partout, mais presque. En tout cas, à tout le moins, au centre-ville. Voilà. Nico, tu veux me parler des salaires? Pourquoi t'es pas content du tien?
Je veux pas te parler du mien. Je veux vérifier. Pierre, est-ce que il t'arrive de faire garder tes enfants par pas de la famille, mettons?
C'est très, très rare.
Mais ça arrive.
Oui.
OK.
Mais ça arrive de moins en moins. Hein? Même à mon époque, donc il y a 22 ans, donc il y a 20 ans.
Ouais. T'as pas déjà fait ça, toi, t'as dit?
Oui, moi, jeune, oui. Ouais. J'avais suivi mon cours de gardien averti et on gagnait 1$ à l'époque.
Pardon?
C'était 1$.
Il y a combien d'années?
Ben, écoute, j'ai 54.
Quand j'étais jeune, ma mère payait 3$, pas plus, là.
Bon, ah oui, c'est ça que je gagnais.
Puis, regarde, il y a l'écart. Moi, là, c'était 1$, mais ça allait tomber. Mettons, les meilleures filles, là, pour garder des plus petits bébés, ils devaient gagner déjà 2$ là. Tu sais, où ça commençait. Donc, moi, je gardais, j'avais peut-être 16 ans, entre 14 et 16, donc ça fait 35 à 40 ans.
Bon, OK.
Donc, c'était à 1$ garder des enfants.
Il y a eu quand même des bonnes augmentations depuis. Tu donnes combien, sans être indiscret, mais il est trop tard, Pierre?
Ben, hey, pour vrai, je pense qu'on a fait ça deux fois dans notre vie, mais c'est...
Ils font pas le monde, ils ont peur de ça.
Mais c'est 10$, je pense, à peu près. Mais j'ai pas de voisins, moi, en partant.
Non, mais même, honnêtement, soyons frais, les gens ont peur un petit peu de faire affaire avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Il y a du monde qui s'empêche de sortir plutôt que faire affaire avec... moi, je vivais une situation, nous, il y avait des voisins, mais des fois, il fallait aller chercher la petite fille ou le petit gars plus loin, mais on n'avait pas de famille proche. Il y avait personne qui pouvait garder. Fait que mais c'était très cool, moi on n'avait aucune crainte, puis même qu'ils ont développé, moi je me souviens d'une petite fille de Pintante qui à qui je parle encore des fois sur différents médias, mais qui a gardé mes gars pendant longtemps, là, tu sais, c'était très cool, puis
j'avais pas des pancartes d'invite que c'était des parents.
Parents secours.
C'était dans le trouble, tu pouvais aller là.
Parents secours.
C'est ça, ouais.
Ça existe encore.
Puis moi, je pense qu'on donnait, donc il y a 20 ans, 18-20 ans, 4$, me semble. 4 à 5$ pour garder mes deux gars.
OK.
Non,
c'est ça. Mais je dirais 10, puis évidemment, c'est au noir, hein, comme on dit. On fait pas de T4 avec ça, puis tout. Fait que c'est pas le salaire.
OK, t'es vraiment en dessous à 10, puis je te dis pas ça pour te shamer, là.
Oh.
J'ai les stats d'avril 2022.
De quel endroit?
J'ai américaine et canadienne. J'ai les deux, parce que vous dites que c'est pas la même chose. Aux États-Unis, maintenant, le prix de base moyen, c'est 18,5 $ US. ça peut aller jusqu'à 25 à 30 selon la gardienne, son expérience et tout ça. Mm. Au Canada, on commence à 15 de l'heure. Et s'il y a des ajouts, des extras, pensez pas à ces extras-là, là, je vous parle de tâches ménagères, d'aider les enfants à faire des devoirs.
Lavage.
S'il y a plusieurs enfants, si c'est le jour, parce que ça coûte plus cher le jour, parce que les enfants sont plus réveillés, que le soir où ils dorment normalement.
Je sais pas ce que tu veux dire par plusieurs enfants. Est-ce que deux, ça compte tout de suite à... Est-ce que tout de suite, il y a une prime à
normalement, tu donnerais plus pour deux que pour un. Évidemment, tu doubles pas le salaire horaire. Là, mais
non, je comprends.
Il y a des primes de dollars à chaque fois qu'il y a un ou plusieurs de ces extras-là. Évidemment, c'est à négocier avec le gardien ou la gardienne en question. Mais ce qui m'a fait réagir, quand j'ai vu le prix américain à 18,5 US, je vous le rappelle, c'est que j'ai vu des affiches où, pour attirer le personnel dans des dépanneurs ici de nuit, c'était 18,50. Fait que, tu sais, il y a une... Je sais pas
si... Au McDo, c'est 16 et quelque chose.
Ben, c'est ça. Je sais pas si la gardienne est trop payée ou si nos salaires sont encore pas assez élevés, puis tirez-moi pas de roche, là. Je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas les... moyen comme société de se payer des salaires qui en finissent plus de
ils sont déjà très élevés
d'augmenter ils sont déjà pas pire élevés mais selon bien du monde c'est pas assez mais tu sais il y a on comprend maintenant j'entendais des j'osais avec des gens d'affaires la semaine dernière qui me disaient on a de la misère à trouver des jeunes pour passer la journée sur un tracteur pour couper du gazon sur le bord des routes puis tout ça même à rien faire ils vont aller voir ailleurs pis c'est pas assez payant même à 20-21 $ pour être assis sur un tracteur. Fait que on a ce dont vous entendez parler depuis des semaines, le manque de personnel, c'est encore plus criant que ce que vous pensez probablement. Puis moi je sais pas où ça nous mène. Mais je vois rien de bon qui s'en vient.
Ah, moi, je vois ça basculer complètement au bord.
Hein?
Ah, oui. Moi, je vais voir. Je vous le dis, puis ça revient à la question dont on va se poser un peu plus tard cette semaine. Mais il va y avoir des fermetures. Il va y avoir des fermetures aussi d'horaires. On va dire, OK, là tu sais, ouvert 7-7, 5 soirs, 7 soirs.
Ça va prendre combien de temps?
Ça va être assez. Ça va aller plus vite qu'on pense.
Tu penses,
ça
va?
Oui. Vraiment, là... Les commerces doivent commencer à rembourser avec le prix de l'essence auquel c'est rendu là, le coût de la vie actuel. Là, on avait un peu de lousse. Je vous jure que tout le monde est en train de manger.
Ça va casser,
moi, je pense que ça va casser solidement pour ça. Et ce qu'il va faire, c'est que là, à un moment donné, on va avoir faim. Est-ce qu'ils l'ont... Ils ont-tu parlé à mon chum Mike Bélanger dans le midi? Mon chum d'arrive sud de
Terre. Je pense pas, non.
Fait que, tu sais, que là, maintenant, les travailleurs étrangers, de ce que moi, j'en ai compris, et s'ils l'ont pas fait, on va le faire. Écoute, c'est un sujet quand même intéressant. Eux, ils ont payé pour des travailleurs étrangers, puis ils ont pas le droit de les embaucher. De ce que j'ai compris, vite, des messages qu'on s'est échangés, parce que le taux de chômage sur la rive sud est trop élevé.
Exact, c'est ça la raison.
Ouais, mais ils ont pas plus, ils ont pas un CV, y a pas personne qui veut travailler. Fait que, mes autres, ils ont payé pour que les travailleurs étrangers arrivent ici. Puis ces travailleurs-là vont aller travailler, ça arrive nord. Pour quelqu'un d'autre.
Oui.
Et ça marche pas, là. Ça peut pas être ça. T'sais. Fait que, à un moment donné, si t'acceptes que ces gens-là fassent venir du monde, ben, 10 heures d'avance.
Faut qu'ils puissent travailler, ouais.
T'sais, c'est ça. Et surtout que dans des domaines où il y a pas de monde. Fait que,
Mais c'est de même, ça marche aux États-Unis pour distribuer les visas de travail, là. Ils regardent, le taux de chômage, puis, ta spécialité par rapport à ce que nous, on a comme spécialité.
Ouais, je sais.
C'est sûr que tu peux faire du cas par cas, mais ça finira plus. Là.
Ça finit non. Je sais. Puis moi, je comprends ça. Mais dès le départ, laissez-les pas investir 50 000 $ à une agence pour faire venir des travailleurs étrangers. Dis-leur, hey, non, ça arrivera pas de chemin.
Ça, c'est sûr.
Ils travailleront pas.
Pour faire ça différent.
Pis c'est ça.
T'es 2, 3, 4, 5 % de chômeurs, il ira pas plus.
Non.
Travailler au dépanneur ou dans le champ de fraises. Fait que ça règle, même si tu as 1 % de plus de chômage.
Ça règle pas ton problème de main-d'œuvre.
Ça règle absolument pas le problème de main-d'œuvre.
Non, mais moi, je comprends le gouvernement qui établit des règles comme
ça. Oui, il n'y a pas le choix.
Sinon, ça va être le
Mais dans la période actuelle, si tu vois que dans l'application. Puis c'est le problème du gouvernement souvent. faut mettre des choses en place, faut mettre des principes en place, faut mettre des règles en place, mais si tu vois que rendu sur le terrain, ça n'a pas de sens, faut que tu t'ajustes. On est dans une période jamais vue de l'histoire, après 2 ans de pandémie, où les gens ont été payés chez eux à rien faire souvent, les gens qui seraient aptes à occuper ces jobs-là, puis là, ils en veulent pas. Fait que à moins de sortir le fouet, puis encore là, ils iront pas sur ces jobs-là. Faut aider les gens à remplir ces postes.
T'sais, ici, là, le gaz à 2,14, là, ça commence à paraître pour tout. Ça paraît pas mal pour tout le monde. J'ai parlé à Gros Chien, samedi soir, puis il disait, c'est 500$ de fuel. 500$ de fuel par jour. T'sais, fait que puis il dit ils ont pas augmenté eux autres leurs affaires. Il dit là ça peut faire pour quelques semaines, mais il dit mon nez, ça a pas de bon sens là, ça va péter. C'est impossible que ça continue.
C'est l'essence qui fait toute la différence en ce moment.
L'essence à Paris,
puis ça va peser sur tout le reste.
Ouais, c'est ça.
Qui est déjà en augmentation.
Exact.
J'ai fait de l'épicerie samedi là, c'est cher. Là.
Ben oui,
et
c'est cher.
Et tout est cher, puis tu sais il y a moins de spéciaux dans tout, puis le linge c'est la même affaire, c'est cher aller au restaurant tabarouette. Ben oui. Fait que à un moment donné, on va tous se saisir et dire, OK, on va diminuer un petit peu nos...
Faire des choix,
tu sais. Aller voir un show au Centre Vidéotron, comment ça coûte, tu sais.
Ça peut être 200$ du billet normal.
Ouais, mais maintenant...
Pour voir du monde de 75 ans, de plus en plus, tu sais, en plus.
Ouais. Puis moi, j'aurais mis ça moins que ça. J'aurais mis à 100$ ou 125$.
Ben, c'est vrai que le billet régulier, c'est 100-125$. Puis il n'y a pas si longtemps.
Mais faut que tu y ailles. Faut que tu fasses garder. Tu vas prendre un verre.
D'ailleurs, sais-tu gardienne ou nounou, par exemple, tu sais, parce que c'est une différence. Un nounou pour des enfants, c'est quelqu'un qui va être peut-être plus âgé, qui va venir passer ses journées à tous les jours chez toi. Pour les prix de tantôt, Nico, là, c'est-tu...
Non, c'est quelqu'un qui t'appelle parce que tu vas au cinéma.
La petite gardienne du coin de la
rue. Okay, okay.
Mais là, t'as pas celle-là, là, ce gardienne-là, elle n'est pas tout le temps disponible. Parce que le vendredi, elle part en cheerleading à la fin de semaine à Montréal, puis elle revient juste le dimanche. Puis,
elle sort le lundi. C'est moins cher. Non, mais on est rendu dans des étapes comme celle-là. Ouais. Là, c'est vraiment, vraiment...
Parlant d'étapes, excuse-moi, Karine.
Nico parlait de 18, 25 et 30 $ de l'heure. Ça veut dire qu'il y a des parents qui font même pas ce salaire-là, mais qui doivent payer ça pour faire garder leurs enfants.
C'est vrai, absolument. Ça.
Puis dans les services de garde, là, à cette heure, même si vous pensez payer 8-10$, regardez l'impact au bout de la ligne. C'est majeur comme dépense. Donc, on fait plus d'enfants.
La radio qui fait parler. De retour dans quelques minutes.
Vas-y, pouf.
Pouf, pouf, pouf. On se prépare mentalement pour notre party terrasse de ce soir au Capital. Donc, 5 à 7 d'avant-match avec ceux qui seront sur la terrasse avec nous. Là, on est... 500 quelques, en tout cas, là, quelques, plus que quelques. Là, fait que,
c'est une grosse terrasse.
Oui, on va être du monde. Espérons que les grands vents qui ont causé certains dommages à la structure aient été réparés. Oui, c'est ça. Fait que, parce que le toit, c'est pas une jeunesse, ce stade-là. Là. Fait que il faut le conserver. On a un turf neuf, puis vraiment, on est bien équipé maintenant pour présenter du baseball à Québec. Alors, on va se croiser là ce soir avec un band de musique et avec également notre équipe de terrasse qui sera là. Ray, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui?
Ben, la France n'a pas collé trop sur toi, je crois pas. Là.
Non, hein?
Reste à voir si toi, tu as collé sur des Français. Ça, on ne pourra pas le savoir.
Non, je pense qu'il y en a une que j'ai dû marquer un peu, là, elle est marquée, mais les autres, ça a bien été. Je pense que ça s'est super bien déroulé. Bon. Pierre?
Ben Louis XIV ne connaît pas Filtre Plus. Ça, c'est je le savais pas. Là, je le sais, mais avant, je le savais pas.
Il n'est pas climatisé, lui. Non. Son château. Ça s'appelle un château, pas de climatisation.
Come on, Louis.
Puis ils peuvent pas trop ouvrir les fenêtres, sérieusement. Ils doivent masquer les fenêtres parce que le soleil peut pas pénétrer à l'intérieur trop.
Ça abîmerait.
Ça abîme la peinture.
Voilà.
Ils sont malades. Karen.
Ah, ben moi, j'ai bien de la job parce qu'il faut te faire une statue.
Oui.
Une statue de plâtre.
Ça va être malade dans le fond de ma cour. T'es-tu d'accord, Nico, avec ça?
Se faire une statue, pense-y, là.
Ça, on se rappelle James Howard avec ses statues.
Oui, c'est jamais quoi, bon ça? Signe.
Ça, c'est le gars du vol de Sunwing.
Oui, je suis Guy, mais il n'y a pas de statue de lui-même.
Oui, il s'est fait faire plein de statues sur son domaine.
De lui-même.
Il était en robe de chambre. Il était un influenceur.
Ah oui? Moi, je veux une statue de moi. C'est pour pas moi, je veux pas, me prends pas pour une vedette ou rien. C'est pour que mes fils, quand je serai plus là, se rappellent de moi et des autres ancêtres.
Je pensais que tu allais mettre la statue ici en studio. Pis,
non, 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 non. Je suis déjà là à rien faire.
On a déjà eu un.
Tu voulais pas. Oui, j'avais un bidon plat. Je l'ai encore.
Il est encore?
Oui, oui, je l'ai encore. Des Bouddhas, j'en ai deux, trois. Ils me ressemblent assez.
Des Bouddhas.
Oui, oui, j'ai des Bouddhas.
Tu cherches pas de moyen de plus en faire moins, là?
Je suis encore un peu là-dessus.
Oui.
Oui, oui. Comment gagner plus
pour en faisant moins possible? Tu penses qu'il reste
encore? Pas beaucoup. Pas beaucoup.
C'est le projet de vie.
Hey, il a quand même dit, j'ai pas besoin de l'amener en studio, la statue. Moi, je suis déjà là à rien faire.
Ouais, c'est ça.
Au moins, il est conscient.
Il est conscient.
As-tu appris quelque chose, mon ami?
Pas bien, bien.
Ça peut arriver, ça.
Ben, écoute, j'ai entendu des histoires pour la première fois, là.
Bon,
je note la date.
Tant mieux. Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir,
ça
m'en vient pas tout.
Ça se peut, ça.
Ça fait cher du matin, sinon.
Ça fait cher du matin, effectivement. Ben, moi, j'ai appris que ça a été bien reposant de prendre une semaine, mais c'était le fun de revenir. J'avais hâte de revenir et qu'on va être ensemble pendant... ça a pris bon bout de temps, en tout cas, au cours des prochaines semaines. Fait que ça va être fort agréable. Alors... restez là. Nathalie Normando, es-tu là?
Ben, idéalement.
Oui.
Ça ferait bien, hein?
Non, mais elle peut aussi, elle, prendre...
Si c'est pas elle, c'est Elisabeth.
C'est Elisabeth. Et après ça, Jérôme, es-tu là, lui?
Oui, tout le monde est là.
Tout le monde est là,
ouais,
là?
Oui, oui.
Puis dans le retour, sont-tu tous là ou...
Ben oui.
Vaccinés toutes?
Techniquement, tout le monde est là.
Ah, bon, fait que tu veux comme ça va bien, c'est... Tout le monde est là! Fait que, soyez là, il manque juste vous autres. Salut, les perruques.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.